RCF.
La cité des Doges, la Sérénissime, la reine de l'Adriatique, la cité des eaux, et j'en passe. Les surnoms ne manquent pas pour parler de Venise, cette ville extraordinaire à laquelle nous allons consacrer ces entretiens. Bernard Doumerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Jaurès à Toulouse et vous avez consacré plusieurs ouvrages à Venise, notamment le dernier paru chez Ellipse qui s'intitule « Venise et son empire en Méditerranée ». Alors on va essayer de retracer avec vous l'histoire de cette ville hors norme, en commençant bien sûr par la fondation. Pour parler de la fondation de Venise, il faut remonter au VIe siècle et à l'arrivée des barbares au nord de l'Italie.
Oui, en effet. Alors en réalité, il y a deux événements historiques très liés. Il y a cette conjoncture particulière de ce qu'on appelle les grandes migrations, qui ont poussé des populations qui quittaient le littoral pour se réfugier sur des îlots dans la lagune. Et puis une mythographie s'est très vite mise en place, écrite par des historiens, pour dater précisément la fondation de Venise en 421.
Quand vous dites une mythographie, c'est-à-dire une origine plus mythique de cette ville.
C'est ça, une histoire réécrite, une histoire inventée, puisque évidemment il n'y avait pas de substrat historique. Les îlots étaient vides, vides d'habitat, vides de lieux, c'était ce qu'on appelait les terres de personne. Et un grand historien, Jacques Herz, a expliqué que Venise n'est pas en Italie, puisque c'est une ville qui représente l'Italie, mais qui n'a pas de fondation romaine.
Alors, qu'est-ce qui pousse cette population, justement, à se retirer sur ces terres, pour le moins inhospitalières ?
Alors, le premier mouvement, c'est bien entendu la fuite et la crainte face à ces peuples barbares. Mais l'essentiel de cette résidence sur des îlots insalubres, une première cité lacustre, le mystère, c'est le fait qu'ils aient voulu rester sur place.
C'est pas tant qu'ils y soient allés, c'est qu'ils y soient restés.
En effet. Alors là, à partir de ce moment-là, il y a eu une volonté commune de se libérer de toute contrainte. Contrainte, on va dire féodale, même si l'époque s'y prête pas, mais se libérer des contraintes, en particulier de l'Empire romain d'Occident. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un lieu, je viens de le dire, qui n'appartenait à personne. Et à partir de ce moment-là, cette communauté d'habitants a dit « Nous allons rester là et nous allons créer des lois qui nous seront particulières, que nous pourrons appliquer sans rendre des comptes. »
À quel moment est-ce qu'on parle de la République de Venise ?
Alors là, c'est beaucoup plus tardif. Pour la première époque, il faut parler du duché. C'est le duc qui devient doge, et c'est le duc de Venise qui est au début dépendant quand même de Constantinople, et petit à petit, qui s'émancipe, appuyé par sa population, pour exister en toute autonomie politique, je dis bien politique.
Revenons quand même à ce peuple qui s'installe là. Ce sont les Vénètes, c'est
voilà.
Ça ? C'est à eux qu'on doit le nom de Venise ?
Voilà, voilà. Alors ça faisait partie de tous ces noms anciens des peuplades qui occupaient, je vais dire, l'Europe à ce moment-là, que ce soit les Burgondes, les Francs ou les autres. Et les Vénètes faisaient partie de ces peuplades mal identifiées, mais qui avaient quand même une identité culturelle, et ils se sont installés donc sur ces îlots avec cette conscience identitaire.
Est-ce qu'ils se sont installés là aussi parce que c'était dissuasif comme endroit, c'est-à-dire que c'était difficilement accessible ?
Oui, enfin bon, pour tous les amoureux de Venise qui connaissent la lagune, on peut imaginer que quand même cet élément aquatique n'est pas un vrai obstacle. Parce que non seulement les îlots sont très proches du littoral, et en plus la lagune, dans l'ensemble, reste très calme. Alors ce n'est pas un rempart aquatique.
Est-ce qu'on sait combien de personnes ça représente ?
On ne peut pas. Il est absolument impossible d'évaluer. On n'a aucune estimation, je ne dis même pas fiable, mais approximative. On parle de noyaux familiaux, les grandes familias à la romaine. Peut-être 300, 400 personnes, pas plus.
Qui s'installent là et qui s'organisent de manière totalement indépendante vis-à-vis de Rome et de qui que ce soit.
Oui, ils ont joué la carte de l'autonomie. Bon, il y a eu des discussions très nombreuses, en particulier avec l'empereur. Rome n'avait rien à voir dans l'affaire. Rome n'existait déjà plus. Donc c'était, si vous voulez, on dit souvent que Venise était le pont entre l'Occident et l'Orient, dans le sens que le duc des Vénitiens a joué la carte entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient.
À cause de sa situation géographique ?
En particulier, et puis, je dis bien, une volonté politique. Il n'était pas possible de mettre en confrontation l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, c'est-à-dire les très grandes puissances de l'époque en Italie, Et dans cette lagune, d'un seul coup, elle a été retirée, elle a été un peu oubliée, et les Vénitiens ont pu jouer leurs cartes.
Cette communauté, finalement assez restreinte au début, vous venez de le dire, s'installe et surtout prospère.
Alors il y avait des ressources, il y avait évidemment des ressources, parce que Cassiodore, un des témoins, un administrateur de l'Empire romain tardif, avait expliqué qu'il ne comprenait pas que ce peuple qui ne sème pas et qui ne récolte pas pouvait quand même s'installer durablement. Et puis les Vénitiens, qui furent très habiles dès le début, ont exploité les salines, puisqu'ils ont installé des marais salants, ils ont conservé les poissons séchés, salés, et puis tous les volatiles, puisque autour de la lagune, il y avait les oiseaux migrateurs qui s'arrêtaient.
Au point de vue hygiène, enfin, c'est un endroit vivable, manifestement, oui.
La preuve que oui, n'est-ce pas? Bon, il y a très peu d'eau potable, puisqu'il n'y a pas de source. Donc, ils faisaient venir l'eau potable des rivières et des fleuves qu'il y avait tout autour. Mais ils avaient mis au point une organisation sociale assez rustique, évidemment, au tout début. Mais
efficace.
Par l'exploitation de pêcheries très nombreuses autour des grandes abbayes bénédictines en particulier, et les marais salants. Et ça leur a suffi pour faire du troc avec tous les aliments qui étaient indispensables à la vie.
Quand est-ce qu'ils commencent à bâtir ?
Cela a mis beaucoup de temps, parce que si vous allez visiter certains îlots, encore aujourd'hui, dans la lagune, vous remarquerez ce qu'on appelle les cabanes, c'est-à-dire ce sont des maisons composées de roseaux, de murs de roseaux et de toits de chaume. Ils avaient installé les premiers habitats de cette façon-là. Il n'y avait quasiment pas de terre ni de briques, bien sûr, très peu de bois. Et en ce moment, il y a certains îlots qui sont rachetés pour faire des lodges de luxe. Avec ces petites cabanes, un toit de chaume, il existe des dessins primitifs où on voit des descriptions très précises de ces premiers habitats.
Donc il faut attendre vraiment le Moyen-Âge bien avancé pour
que... Oui, on va dire que le noyau urbain, ce qu'on va appeler une agglomération, autour de 9e siècle, là on peut dire qu'il y a le noyau primitif d'une ville.
Est-ce qu'il faut distinguer, Bernard Doumerc, cet ensemble d'îlots et la ville de Venise?
Alors, il y a toujours ce flou que beaucoup de passionnés de l'histoire de Venise ont du mal à comprendre. En réalité, Venise, à l'époque, c'est Rialto, Rivo Alto, la rive haute.
Qui a donné son nom au fameux pont.
Voilà. Alors, il y avait quelques îlots rocheux, justement, sur lesquels s'appuie le pont, qui représente un poids considérable. Un autre îlot rocheux, là où il y a le palais des Doges en ce moment, pour pouvoir soutenir des masses considérables. Tout le reste, c'était des petits îlots épars. Et à partir de ce moment-là, l'essentiel était de faire une agglomération à partir de ces îlots. Et là, il y a eu, une fois de plus, une révolution sociale de faire quelque chose, un espace commun, pour éviter que ces îlots soient privatisés par des familles. Ça a été une œuvre d'art de socialisation et de vie en communauté.
Et ça, c'est une victoire due à l'organisation politique et administrative de la ville?
Oui, oui. Un esprit commun, une communautas d'objectifs, d'intérêts. Et cette communauté qui a donné un état d'esprit très particulier a duré quasiment pendant 1000 ans.
Et donc, c'est de là qu'est née la ville de Venise, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Oui.
Le rassemblement de ces îlots pour ne former qu'une seule entité.
C'est tout à fait ça. Et les premiers tribuns qui organisaient la vie sociale de cette cité ont très bien compris que l'essentiel, c'était de rejoindre les îlots. Donc vous avez tous remarqué, tous les auditeurs qui sont allés là-bas, ont remarqué qu'il y a trop de ponts à Venise. Et nous aurons envie de dire qu'il
Pourquoi
y a des ponts qui ne servent à rien. Mais en réalité, c'était ces ponts qui servaient de trait d'union entre tous ces petits îlots. Il fallait absolument que les voies de circulation et les voies de franchissement soient des voies publiques.
Pour éviter l'isolement de certains de ces îles.
Et la confrontation entre des propriétés privées qui rentreraient dans une rivalité et une concurrence.
Alors peut-être une question un peu basique, mais qu'est-ce qui fait qu'on laisse tranquille cette communauté qui a l'air quand même de sacrément bien s'installer, de prospérer encore une fois et de devenir très efficace à tout point de vue? Ça a dû susciter un certain nombre de convoitises.
Oui, mais en effet, mais c'est que personne ne les a laissés tranquilles. Déjà, les successeurs de Charlemagne ont essayé d'attaquer, mais ils ont été vaincus. Toute l'histoire de la République de Venise, qui restait libre, j'insiste beaucoup là-dessus, pendant 1000 ans, sauf jusqu'à la fin, quoi, en 1797, les Vénitiens ont réussi à toujours
garder leur
repousser les assauts, mais qui furent très très nombreux.
Bernard Domerc, nous avons vu avec vous le fondement de Venise, l'origine de cette communauté qui s'est rassemblée dans cette lagune assez inhospitalière et qui a fini par trouver un mode de vie tout à fait stable, s'organiser et puis, on va le voir avec vous, prospérer. La clé, disons, de cette prospérité est à rechercher du côté administratif et de l'organisation de la vie publique de cette communauté.
Oui, en effet. On va dire à partir du XIe siècle, quand il y a une très très belle organisation institutionnelle. Le duché de Venise devient un espace politique, à proprement parler, avec des lois, avec des règles très précises, fondées sur le droit romain bien évidemment, mais qui ont permis l'éclosion des élites administratives, des élites politiques et des élites militaires bien évidemment. Alors dans ces conditions, les Vénitiens ont compris très vite qu'il fallait constituer un espace territorial, parce qu'évidemment ils étaient installés sur des îlots, isolés d'une certaine façon, dans la lagune, mais il fallait aussi prévoir l'approvisionnement de l'agglomération et du duché. Et à partir de ce moment-là, il y a eu les premiers épisodes expansionnistes, que certains appellent impérialistes, pour conquérir des territoires. Ces territoires devaient approvisionner la cité et devaient fournir surtout les matières premières.
Vers quoi se dirigent les Vénitiens pour prospérer et pour trouver de nouvelles terres ?
Il y a eu deux directions. Il y a eu bien sûr la direction vers le littoral, c'est-à-dire les anciennes villes d'origine de tous ces habitants. On peut penser à Padoue, on peut penser à Citanova, etc. Et puis surtout, très vite, en l'an 1000, par exemple, voilà un repère chronologique bien connu, les Vénitiens lancent une très grande expédition en direction de l'Istrie, la petite péninsule face au golfe de Trieste. Et il y avait de très belles et de très grandes villes romaines, de magnifiques ports. Et en l'an 1000, les Vénitiens sortent de la lagune pour commencer l'épopée vers l'Adriatique. Et ça, ils ont pu le faire grâce à une organisation parfaite, la mise en commun des ressources pour construire très vite une flotte. Donc ils avaient d'un côté les matières premières venant des Alpes, bois, pierre, minerais. Tout ça leur permettait de constituer des flottes très performantes pour tenter l'aventure au-delà des mers.
Avec un véritable chantier naval.
Le chantier naval, tel que le comprenons, vient plus tard.
C'est-à-dire
La première mouture du véritable arsenal, c'est-à-dire le chantier naval, est datée d'environ 1104. On peut penser que c'est lié à la grande expédition des croisades.
Cette avancée vers l'Adriatique, ça donne à Venise une puissance supplémentaire et ça lui permet d'étendre son territoire.
Voilà, alors il y avait cet objectif commun, c'était l'accès à la Méditerranée. Les Vénitiens étaient quand même ancrés dans une tradition romaine, et ils avaient cet objectif de prendre part à l'exploitation des territoires en Méditerranée. Et ils y parviennent peu à peu, avec douleur et sacrifice, hein, c'est pas une promenade de santé, mais là aussi, une fois de plus, les croisades, les expéditions vers la Terre Sainte, ont autorisé de grandes expéditions. Il faut citer la grande quatrième croisade, 1202-1204, qui est détournée vers Constantinople. Et les Vénitiens prennent d'assaut avec les Francs Constantinople.
RCF, la suite de l'histoire.
C'est une étape supplémentaire qui permet à Venise d'obtenir des richesses et un pouvoir considérable.
Oui, parce que l'Empire byzantin étant vaincu, les Vénitiens s'installent chez eux dans une très grande partie de la Grèce occidentale, du Péloponnèse, et si on remonte un petit peu, l'Albanie actuelle, l'Épire, etc., etc.
Et donc là, un commerce peut se mettre en place. Ça, c'était déjà le cas avant ?
C'était déjà le cas. Deux dates comme ça, 840, un traité avec l'empereur d'Occident qui autorise l'expansion et l'approvisionnement des terres allemandes. Et puis 892, un grand traité avec l'empereur d'Orient. Donc c'était déjà bien en route. Il s'agissait, après 1204, de conforter et d'établir des bases. On peut parler de colonies vénitiennes en Méditerranée.
Alors le commerce, il porte sur quoi ?
Là aussi, n'est-ce pas, on met trop l'accent, à mon avis, au moins jusqu'au XIIIe siècle, sur la soie, les épices, l'or et tout ce qui vient d'Orient. Les Vénitiens vendaient beaucoup de bois, ils vendaient beaucoup de sel, ils vendaient beaucoup de métaux. Et quand ils se sont accrochés sur le littoral de la rive orientale de l'Adriatique, c'était la porte ouverte vers les Balkans. Et les Balkans, c'était bien entendu des élevages intensifs. C'était des peuples nomades qui fournissaient le bétail, les pollenés, la laine, et puis les ressources naturelles. Vous pouvez imaginer, par exemple, que les matières tinctoriales ne venaient pas forcément de l'Asie extrême. Elles venaient de l'Albanie, elles venaient de la Macédoine. Donc il y a eu comme ça des échanges de proximité tout d'abord, mais très volumineux. Le poivre arrivait au XIIIe, début du XIVe, en petite quantité. Mais les métaux, les peaux, les cuirs, les bois, la pierre arrivaient avec des volumes considérables. C'était des bateaux de transport, des rouliers, comme on dit encore aujourd'hui, qui transportaient d'immenses cargaisons qui étaient revendues après dans toute l'Italie du Nord.
Donc Venise devient une espèce de plaque tournante du négoce.
Voilà, vous pouvez imaginer la vallée du Pô, avec toutes les grandes et magnifiques villes que vous connaissez, de très grandes agglomérations pour l'époque médiévale, qu'il fallait approvisionner en matière première.
Qu'est-ce que ça change pour la ville elle-même et pour son organisation quotidienne et politique ?
Alors déjà, il faut bien prendre en compte que la lagune est un espace aquatique inhospitalier pour la navigation. Les navires de haut bord ont de la difficulté pour entrer. Il faut passer le lido, le petit cordon littoral, et la lagune n'est pas profonde, n'est-ce pas ? Tout le monde le comprend bien. Alors les grandes bases maritimes étaient à l'extérieur, elles étaient justement en Istrie. Donc il y avait tout un trafic qui s'effectuait autour de la lagune et beaucoup de trafic de cabotage en direction du Pô, du côté du sud-ouest, et en direction du golfe de Trieste, du côté du sud-est. Donc c'était une grande plaque tournante de la navigation de cabotage.
Venise, épouse de l'Adriatique et dominatrice des mers qui donnait des empereurs à Constantinople et des rois à la Crète, de qui les monarques tenaient à être les citoyens. Venise, république au milieu de l'Europe féodale, qui servait de bouclier à la chrétienté. Venise, planteuse de lions. Venise dont les doges étaient des savants et les marchands des chevaliers. Venise qui terrassait l'Orient.
On a parlé tout à l'heure de l'apparition du duché, d'où le nom Doge.
Oui.
Qui a quel pouvoir ?
Le Doge est un magistrat. Le Doge est élu. C'est pour ça qu'on parle de respublica dans le sens politique du terme aussi. C'est que tous les magistrats, du plus petit jusqu'au plus célèbre, à savoir le Doge, toutes les charges sont électives.
C'est pas un souverain ?
Non, absolument pas. Il est à peine béni par le patriarche de Venise, il n'est absolument pas sacré, c'est un magistrat détenteur du droit et de la justice. Et tous les administrateurs vénitiens sont élus. Donc à partir de ce moment-là, il y a cette communauté d'esprit de l'intérêt commun. Ils sont les représentants d'une communauté et rendent des comptes à cette communauté. Et le doge lui-même est élu à vie, il ne peut pas démissionner, même s'il est très malade, et il est garant des institutions. Vous avez peut-être tous dans l'œil les grandes, autour de Saint-Marc en particulier, sur le palais de Doge, les grandes représentations d'un doge agenouillé devant le lion de Saint-Marc. Et là où il faudrait représenter les évangiles, en réalité, c'est la loi, c'est le code de loi qui est représenté.
Le palais des doges, il date de quelle période ?
Alors, il a été remanié, reconstruit, brûlé, détruit, tremblement de terre, inondation, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le siège du gouvernement, je préfère l'appeler ainsi, parce que si on se dit palais des doges, on s'imagine déjà dans un château princier, Donc le palais du gouvernement existe à partir du Xe siècle.
Les conditions de vie dans la ville de Venise, à ce moment-là, s'améliorent ?
Ben, elle s'améliore parce que la prospérité financière est là, donc ils peuvent acheter tout ce qui fait défaut. En particulier, je le disais tout à l'heure, ils achetaient l'eau qui coûtait très cher, l'eau potable. Hein ? Quand vous voyez tous les puits innombrables dans la cité, en réalité ce sont des citernes, ce ne sont pas des sources. Il fallait une organisation extrêmement précise. Donc Venise a été très vite divisée en quartiers, qu'on appelle les sestiers, puisqu'il y en a six, avec des chefs de sestiers, avec presque des responsables de rues, de ruelles et de canaux, pour bien organiser la vie en commun dans ce milieu qui restait inhospitalier.
En parallèle, alors que la ville se déploie, prospère, s'enrichit, elle doit lutter contre les convoitises dont elle est l'objet et les attaques permanentes auxquelles elle a dû faire face.
Il y avait effectivement cette expansion qui causait beaucoup de soucis aux voisins. En particulier, il ne faut jamais oublier la place extraordinairement importante du royaume de Hongrie, qui était proche du littoral de la mer Adriatique. Donc, les Vénitiens ont mené des guerres permanentes contre le royaume de Hongrie. Et puis, bien entendu, les adversaires de toujours qui furent les Génois. Puisque les Génois, eux, souhaitaient aussi participer à l'expansion en Méditerranée. Il y a eu donc une guerre dite de 100 ans entre Venise et Gênes.
Bernard Domergue, vous nous disiez précédemment que la grande rivale de Venise aura été la ville de Gênes, un port également, parce qu'il y a une expansion maritime considérable à ce moment-là, il y a des territoires à gagner et une volonté coloniale évidente de la part de ces deux cités, mais de bien d'autres aussi. Donc les enjeux sont quand même considérables. On a du mal à imaginer, vu aujourd'hui, ce que ça pouvait être, mais vous avez aussi parlé d'empire colonial en parlant de Venise.
Oui, en effet. Alors, il y a des enjeux considérables, vous venez de le dire. Il y a tout d'abord la reconquête contre les musulmans.
On se situe à quelle période, là ?
Alors là, ça commence très tôt, ça commence 9e, 10e siècle. Les forces chrétiennes repartent à la reconquête de ce que certains ont appelé le lac musulman. D'un côté, les Génois se sont occupés de la Méditerranée occidentale, hein, les îles de Sardaigne, etc., etc., Corse, Sicile et le côté du Levante espagnol, et les Vénitiens se sont occupés de la Méditerranée orientale, en venant au secours des Byzantins. Donc il y avait déjà ce front qui avançait, bien entendu sous la bannière pontificale. On était dans le schéma de croisade. Et puis, quand les croisades se sont installées en Terre Sainte, la zizanie a commencé entre les grands pôles politiques et militaires de la chrétienté. Et le dépeçage de l'Empire byzantin fut profitable aux Vénitiens, au détriment des Génois. Et les règlements de compte se poursuivaient ensuite en Terre Sainte. Donc il y avait cette guerre de 100 ans que j'ai évoquée entre les Génois et les Vénitiens pour prendre possession, pour s'installer, pour avoir des colonies comme nous le comprenons aujourd'hui, dans le sens très contemporain. Alors il y a eu un débat autour des comptoirs, puisque chaque puissance européenne, il y a eu les Catalans qui ont joué un grand rôle. Il y a eu d'autres puissances comme cela, des petites villes comme Amalfi, par exemple, qui a installé des comptoirs pour exploiter les richesses locales. Et en particulier, bien entendu, le marché des esclaves.
Venise y a participé aussi.
Considérablement. Considérablement. Parce que, évidemment, là aussi, on ne veut pas rompre le lien avec la tradition romaine. Des historiens italiens ont donné quelques éléments d'évaluation. Il y avait 20% d'esclaves environ dans la population de certaines villes romaines. Donc ça représentait évidemment des flux migratoires tout à fait considérables. Et ces villes italiennes ont pu se développer grâce à la présence des esclaves.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieu.
Venise tire son épingle du jeu, si vous me permettez l'expression, plus que les autres dans ce contexte-là ?
Non, jusqu'au XIVe siècle, si on voulait situer une échelle, ils sont tous à égalité. Ils ont des zones géographiques privilégiées, se partagent le territoire, si on le dit ainsi, jusqu'à une très très grande guerre, datée de 1379-1381. À partir de ce moment-là, on pourrait dire que le combat, c'est ça, faute de combattants.
Une guerre qui oppose qui ?
Qui oppose Gênes et les Hongrois contre les Vénitiens tout seuls. Hein? Donc les Vénitiens se sont retrouvés pris en étau. Du côté génois, bon, vous voyez tous où se situe la ville de Gênes, et les Hongrois de l'autre côté. Et ça a duré pendant très longtemps, cette histoire-là. Mais les Vénitiens ont toujours tenu bon. C'était de très vaillants soldats, de très grands techniciens de la navigation, et ils ont pu résister aux assauts. Il y a eu des défaites. Tous ces épisodes belliqueux sont jalonnés de défaites. Mais chaque fois, Venise reprenait le dessus, calmement et patiemment.
Vous avez quand même parlé du XIVe siècle comme étant une période où quelque chose bascule.
Oui.
Qu'est-ce qui bascule,
oui,
là?
Alors, il y a le modus vivendi. Les belligérants ont compris qu'ils n'arriveraient à rien à poursuivre des guerres vaines comme ça pendant des dizaines d'années. Et alors, la rivalité s'est concentrée sur une guerre commerciale. C'était plus une guerre militaire, mais ce fut une guerre commerciale. Donc il fallait se partager les territoires, créer de nouveaux réseaux. Vous pensez tous à les explorateurs partis en Orient, vous pensez à Marco Polo.
Hein? Né à Venise.
Alors,
non, c'est pas sûr.
Non, non, évidemment, les Dalmates, les Dalmates, c'est-à-dire les Croates, et je pense que c'est vrai, présente la famille Polo, originaire de Curzola, à l'italienne, ou Curciola, en Dalmatie aujourd'hui. N'oublions pas, c'est le moment de le situer, j'ai bien dit qu'il y avait de très nombreux flux migratoires, et la population vénitienne est elle-même tout à fait disparate. Hein, c'est une mosaïque de peuples et de cultures. Les gens venaient de partout pour s'installer à Venise, et ils apportaient leurs compétences. Ce fut le règne de la méritocratie.
Pourquoi vous parlez de ça au moment où on parle de Marco Polo?
Parce que justement, s'il n'est pas vénitien, lui et sa famille ont saisi l'opportunité de venir s'installer dans une ville de toutes les promesses. C'était des immigrants qui arrivaient et qui jouaient la carte de l'entreprise, soyons clairs, n'est-ce pas?
En tout cas, il a fait partie de ces explorateurs, vous le disiez, qui ont contribué à l'expansion encore et à l'enrichissement de ces villes.
Voilà, alors les Vénitiens ont mis à profit d'une façon tout à fait exceptionnelle tous les savoirs acquis et qu'ils ont effectivement perfectionnés.
On dirait optimisés aujourd'hui.
Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Hein, avec une précocité, que ce soit dans le domaine institutionnel, dans le domaine technique, on pourrait citer des exemples et des exemples très nombreux, de la précocité que certains appellent la modernité.
Mais ça, c'est dû à des esprits particulièrement affûtés et intelligents, stratégiques, à l'organisation administrative tout à fait efficace dont vous nous avez parlé. À une conjoncture?
Il y a un ensemble de facteurs. Nous avons évoqué cette méritocratie. Les Vénitiens recherchaient les talents. Ils sont allés, par exemple, débaucher les charpentiers de marine grecs. Ils faisaient des ponts d'or aux constructeurs. Hein? Ils ont fait la même chose avec les bâtisseurs. Tous les tailleurs de pierre qui venaient de la Dalmatie, où il y a cette pierre magnifique, là, la pierre d'Istrie, la pierre blanche de Venise. Il fallait aller la chercher quelque part, elle n'était pas dans la lagune. Hein. Donc ils transportaient les pierres brutes, mais aussi ils engageaient les tailleurs de pierre qui étaient venus s'installer, etc., etc. Les Vénitiens étant très observateurs, ils couraient toutes les parties du monde, ils observaient et ils reprenaient les savoirs qui étaient acquis ailleurs.
Sur l'eau verte, bleue ou grise des canaux et du canal, nous avons couru Venise de Saint-Marc à l'Arsenal. Au vent vif de la lagune qui l'oriente à son gré, j'ai vu tourner ta fortune, ô Dogana di Mare. Souffle de l'Adriatique, brise molle ou sirocco, tant pis si ton doigt m'indique Fusine ou Malamocco. La gondole nous balance sous le Fels, et de sa main le fer coupe le silence qui dormait dans l'air marin. Le soleil chauffe les dalles sur le quai des esclavons. Tes détours et tes dédales, Venise, nous les savons.
On parle du déclin de Venise. Oh, je vous vois tiquer.
Enfin, bon, vous savez, on parle du déclin de Byzance. Alors, si le déclin a duré 1000 ans, je veux bien. Non, les Vénitiens n'ont pas connu ce qu'il faudrait appeler des crises. Ils ont connu des phases d'adaptation. Il faut que les sociétés s'adaptent à une nouvelle conjoncture, avec plus ou moins de succès, n'est-ce pas? Bon, Lévi-Strauss parlait des sociétés chaudes et des sociétés froides. Il y a des sociétés qui subissent des conjonctures défavorables. Et il y a des sociétés qui mettent à profit une conjoncture défavorable pour rebondir, comme on dirait aujourd'hui.
C'est le cas de Venise.
C'est le cas de Venise.
Alors, à ceux qui estiment que, notamment la découverte du Nouveau Monde et le déplacement des centres décisionnels vers l'Espagne et le Portugal ont contribué à ce fameux déclin de Venise, vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie ?
Non, il ne faut pas le dire ainsi. Transformation sans aucun doute, puisque les routes méditerranéennes ont été désormais un peu délaissées par les routes transocéaniques, c'est une évidence. Mais les Vénitiens, de ce fait, ont réinvesti. Et ils ont investi dans les domaines fonciers, dans les immenses propriétés agricoles de la plaine du Pô et du Piémont. Quand vous allez voir aujourd'hui les immenses villas et les magnifiques villas vénitiennes, c'était des fermes, c'était des entreprises. C'était pas des lieux de villégiature pour lâcher le bon si célèbre.
C'était, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on les présente souvent comme les résidences d'été des doges, notamment.
Non. Palladio le premier, par exemple, architecte brillant et qui a donné des palais. Mais ces villas vénitiennes, j'insiste beaucoup là-dessus, étaient des entreprises agricoles, d'une modernité, d'une technicité à faire pâlir d'envie les entrepreneurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc il y a eu une reconversion de l'économie. C'est vrai que le commerce en direction de la Méditerranée et donc de l'Extrême-Orient était sur le recul, pour ne pas dire le déclin, c'est vrai, mais les Vénitiens se sont reconvertis. Justement, ils ont commencé à planter les rizières, ils ont planté le maïs, etc., etc.
Sur le plan politique, donc manifestement la rivalité avec Gênes s'est un peu tassée, puisqu'elle s'est déplacée sur le plan du commerce. D'autres ennemis s'attaquent à Venise, ou bien
Venise...
la situation se stabilise de ce côté-là?
Non. Jusqu'à l'anéantissement de 1797, on peut considérer que les ennemis furent toujours présents, mais diversifiés. Hein, la pression existait toujours.
Les Turcs, notamment ?
Alors, les Turcs, là aussi, il faut donc rectifier le tir. On aurait envie de croire que c'est à cause des défaites contre les Turcs que les Vénitiens, justement, se sont reconvertis vers le nord de l'Adriatique et vers les territoires alpins. C'est une erreur. N'est-ce pas ? Je vous l'ai dit, les bases de la puissance sur le territoire qu'on appelle la terra ferma, n'est-ce pas, viennent de l'origine. Donc c'est pas parce qu'ils étaient vaincus outre-mer en Méditerranée qu'ils se sont repliés vers la terre ferme. Et puis il y a eu ce pacte étonnant, parce que si les Turcs avaient voulu balayer les possessions vénitiennes, ils auraient pu entrer dans l'Adriatique. Ils voulaient conquérir Rome.
Ils en avaient les moyens.
Oui. Mais il y a eu ce modus vivendi, les Turcs ont préféré attaquer les Balkans, ils voulaient Vienne, ils voulaient Sofia, ils voulaient Prague, ils voulaient tout ça, et ils laissaient l'Adriatique à ces pauvres Vénitiens qui avaient un petit territoire de rien du tout. Hein. Donc là, pas de contresens, les Turcs, oui, furent des adversaires redoutables, mais qui ont toujours accepté la collaboration avec les Vénitiens.
La Sérénissime est un des noms de Venise, c'est-à-dire la ville très sereine. D'où vient ce surnom ?
Ce surnom a été donné assez tôt, en définitive. Ce qui a impressionné les contemporains à toutes les époques, c'était la stabilité. Cette stabilité donc, des institutions que je vais oser appeler démocratiques, c'est-à-dire électives, comme nous l'avons dit, appuyées sur un droit très stable, bien clair, bien compris par tout le monde, donner en réalité le socle d'une vie collective établie sur la loi.
Il y a une justice en quelque sorte.
Il y a une justice pour avoir la paix, parce que les Vénitiens ont compris que la paix c'est la prospérité, c'est la richesse.
Est-ce que la religion chrétienne contribue à la stabilité de Venise ?
Alors, c'est paradoxal, n'est-ce pas ? Les Vénitiens sont pieux, croyants, ils sont anticléricaux, ils détestent les puissances pontificales. Pour citer un exemple, tous les garants de charges pontificales, évêques, abbés et autres chanoines étaient bannis de toutes les assemblées politiques. Ils n'avaient pas le droit de prendre part au vote des lois.
Pour la puissance qu'ils représentaient ?
Oui, parce que les Vénitiens, le corps nobiliaire vénitien, imaginaient que c'était la cinquième colonne du pontificat. Donc il fallait absolument écarter tous les représentants du pape, donc du clergé, dans la vie. quotidienne de la communauté vénitienne. Les Vénitiens ont réussi cet exploit extraordinaire de faire la séparation entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre.
D'ailleurs, c'est une ville qui se déclare laïque.
Oui, c'est une république laïque. Ça lui a causé beaucoup de soucis parce que les papes, au cours de l'histoire vénitienne, fulminent sans cesse des excommunications qui font sourire les Vénitiens. Et par exemple, le clergé vénitien, les curés des paroisses, ne déclarent jamais en chaire que le peuple chrétien est excommunié. Ça n'existe pas. Alors, le pape s'agite, le pape est furieux, mais en réalité, les sacrements sont distribués, les sépultures chrétiennes ont lieu, tout a lieu normalement.
Donc, pas de mainmise de Rome, ni du pape sur cette cité. C'est peut-être ça qui l'a sauvé, finalement.
Oh, oui, ça serait excessif de dire cela. Mais s'il faut pousser le trait, imaginez quelque chose d'inconcevable, quand même. Nous sommes au Moyen-Âge, il ne faut pas l'oublier. Le Grand Conseil des Nobles de Venise proposait au pape une petite liste de noms parmi lesquels seront choisis les évêques. Donc c'est pas le pape qui choisissait les évêques, c'était le Grand Conseil de Venise qui disait, voilà, des hommes loyaux, fidèles à la République, fidèles à la papauté, il faut pas non plus exagérer, mais fidèles aux intérêts de la République, avant toute chose. Donc là aussi, c'était un élément de sérénité. On écartait, si j'ose dire, l'ennemi ecclésiastique.
Et les Vénitiens sont pieux.
Oui.
La pratique religieuse, évidemment, vous le disiez, on est au Moyen-Âge, est importante. Elle structure quand même aussi la vie quotidienne, oui, et la société. D'où vient que Saint-Marc est le saint patron de Venise?
Alors là, évidemment, on rentre, hélas, dans une histoire politique. Parce que en 828, les Vénitiens très habiles volent les reliques de Saint-Marc en Égypte, Alexandrie, le patriarcat d'Alexandrie, au grand désarroi des Coptes, qui se trouvent complètement démunis et abandonnés, puisque les Vénitiens ont volé les reliques. Et puis ils les installent dans la lagune avec un épisode légendaire, peu importe. C'était tout simplement pour chasser le saint protecteur byzantin. Donc saint Marc est devenu le saint patron des Vénitiens, c'est quand même un évangéliste, c'est pas rien. Hein. Et puis comme ça, ça a permis de chasser saint Théodose, qui était le premier protecteur byzantin, qui représentait la puissance byzantine.
Donc c'est une stratégie politique plus, oui, qu'une forme de piété, quoi.
Oui.
Puis ça s'installe, ça se transforme en piété.
Oui, oui, mais... parce qu'après le rituel de dévotion, etc., les pèlerinages, n'en parlons pas, hein, bien sûr. Et puis très habilement, les Vénitiens, pendant des siècles, ont procédé de la sorte. Les commandants de navires, par exemple, voire les généraux, recevaient l'ordre de voler les reliques partout où ils allaient. C'était indispensable. Ils ont volé, par exemple, les reliques de saint Nicolas, qui est devenu après le patron des marins, hein, bon, etc., etc. Les épisodes sont très nombreux, c'était une consigne. Il fallait que Venise devienne le port de tous les saints, pour attirer des millions de pèlerins.
Donc non seulement Saint-Marc, mais des tas de reliques sont présentes dans la ville encore aujourd'hui?
Oui, oui, bien sûr, il y a
chaque église,
Sainte
quasiment.
Lucie, oui, ma foi, oui. Et puis j'insiste beaucoup là-dessus, parce que évidemment, souvent on se moque des reliques chrétiennes, parce qu'il y en a trop, bien. Mais là, elles étaient ciblées, elles étaient authentifiées, pour la plupart d'entre elles, bien sûr. Mais c'était des reliques prestigieuses. Il y a le chef de Saint-Georges, il y a, que sais-je moi, il y a un bras de Saint-Étienne. Bon, enfin, vous imaginez un peu la renommée de cette ville qui devient un centre de pèlerinage. Et parmi les commerçants, les combattants, les migrants, les esclaves et les autres, il y avait énormément de pèlerins. Et là aussi, les institutions ont organisé toute cette vie économique autour des centres religieux, autour des centres de pèlerinage.
Suite de l'histoire.
Ça donne du poids, ça aussi.
Oui.
Dans le contexte dont on a parlé tout à l'heure d'expansion, ça donne du poids à cette ville.
Bien entendu, parce que tous les gouvernements ont donné la même consigne, il fallait que la ville soit belle, il fallait que la ville rayonne dans l'immensité de l'Occident. À partir du moment où Jérusalem a été reconquise par les musulmans, en 1189, quand Constantinople a été anéantie après 1204, Rome était soumise à des turbulences invraisemblables après le déplacement de la papauté en Avignon.
Donc il fallait que Venise redevienne la capitale chrétienne, voilà, de la chrétienté, de cette zone-là.
Oui, c'était le phare de la chrétienté. Et il fallait donc, à plus forte raison, jouer une carte nouvelle, attirer des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins qui eux-mêmes contribuaient à faire marcher l'économie.
C'est de là que date la fameuse place Saint-Marc et la basilique ?
Alors, la basilique, le premier noyau de la basilique a été construit pour abriter les reliques, dès 830, dès 850, mais c'était un bâtiment modeste. Et là, c'est la même chose, il ne faut pas faire de confusion. La basilique Saint-Marc, c'était la chapelle ducale, c'était la chapelle du duc. Ça n'a jamais été la cathédrale. La cathédrale est très éloignée, c'est San Pietro. L'archevêque était remisé aux confins, vraiment dans les marges, un tout petit îlot, très loin, très moche. Et l'archevêque devait demander la permission aux doges pour venir en ville.
D'ailleurs, la basilique Saint-Marc et le palais des doges sont absolument liés.
Oui, il y a un passage construit, oui. Voilà, c'est une chapelle palatine, comme à Aix, la chapelle, qui était la chapelle du palais.
Puisqu'on parle de religion, est-ce qu'il y a une grosse communauté juive à Venise ?
Oui, de tout temps. De tout temps, les Vénitiens, là aussi, n'ont pas négligé cet atout. Et là aussi, évidemment, même chose, il faut corriger peut-être un sentiment erroné. Quand on parle du ghetto, il faut bien comprendre que les Vénitiens ont accueilli à bras ouverts tous les Juifs qui étaient chassés de la péninsule ibérique, qui étaient chassés de Sicile, qui étaient chassés du royaume de Naples. Et on a installé, dans l'urgence, des communautés juives sur un endroit qui était abandonné, le ghetto, là où on jetait des déchets. C'était des décharges municipales. On les a mis là pour les abriter. Et évidemment, le gouvernement a passé des contrats avec les représentants des communautés. Et une anecdote intéressante et méconnue, c'est que, évidemment, les Juifs ashkénazes installés depuis toujours autour de la lagune ont très mal vécu l'arrivée des séfarades qui leur prenaient des places, qui n'avaient pas les mêmes usages, qui n'avaient pas les mêmes coutumes, qui étaient un peu trop méridionaux pour certains ashkénazes. Et il y a eu des bagarres très, très violentes entre les communautés.
Dans Venise la Rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume, en léger tourbillon, leur pavillon.
Alors, j'anticipe un peu sur notre prochain rendez-vous où nous allons parler culture, en parlant du carnaval, alors ce fameux carnaval de Venise.
Depuis toujours, il ne se distingue pas des autres carnavals. Il ne faut pas croire cela. Bon, il avait pris une grande importance, c'est un fait. C'est un fait.
À quelle période est-ce qu'il est, disons, à son apogée ?
Ben, la première mention du carnaval date de 1104. Alors l'apogée, ça a commencé à la fin du 15e, et puis alors 16e, 17e, nous allons dire que Venise, je le dis, devient Las Vegas en Occident. Dans le cadre de la reconversion économique que j'ai évoquée, les nobles vénitiens, qui font beaucoup moins de commerce à cause de la présence des Portugais et des Espagnols en particulier, investissent dans les casinos inventés à Venise, investissent dans les théâtres, dans les maisons de jeux, dans les maisons de passe, aux grandes dames de l'église, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, cette grande liberté de mœurs contribue à donner cette image, peut-être de débauche, mais en tout cas de ville en liesse pendant des mois. Et c'est là où l'image du carnaval de Venise, comme on l'a souvent à l'esprit, naît dans l'ensemble de l'Europe. Il fallait aller au carnaval de Venise pour vraiment s'amuser.
L'inventivité et puis le côté artistique des masques, des déguisements, va avec la prospérité de la ville. Il y a une dimension artistique là, particulière par rapport aux autres carnavals ?
Non, je ne crois pas. Si vous regardez tous les tableaux peints par les Vénitiens, on pense à Longhi en particulier et d'autres, on voit les stéréotypes des masques de carnaval, mais qui sont très simples. Masque noir, masque blanc, très formaté.
Les plumes, les dorures, le maquillage, la soie.
Non, Non, vous regarderez, vous regarderez ce qui peut surprendre, bien sûr, ce qu'on appelle la bauta, ce grand voile masculin ou féminin, puisqu'il faut évidemment tromper sur le sexe de l'interlocuteur, en dentelle noire, qui couvre toutes les épaules, une espèce de mantille immense, avec un masque très simple, très discret en réalité. Tout se passait dans les chambres closes.
Bernard Doumerc, pour terminer ces entretiens consacrés à l'histoire de Venise, il faut évidemment s'arrêter sur l'image véhiculée partout dans le monde. Notamment, il faut quand même en dire un mot aussi à cause de son architecture tout à fait originale. Hein. Il faut rappeler que cette ville est construite sur pilotis. Et puis la beauté. Venise, c'est la beauté et c'est une ville qui fascine.
Oui, oui, c'est exact. Alors, l'exploit architectural, vous parlez de cité lacustre, oui. Peut-être les auditeurs se souviendront que quand il y a eu les épouvantables inondations de 1966, la basilique de la Salute a été quasiment anéantie, puisqu'elle est en promontoire vers la lagune. Et les études techniques ont montré qu'il y avait presque 1 million de pieux, 1 million de troncs d'arbres qui servaient de plateforme pour édifier au-dessus la basilique de la Salute. Donc ça donne une idée, n'est-ce pas, à la fois des travaux et de la technicité, puisqu'elle ne s'est pas écroulée. Et on dirait pareil pour le palais des Doges et le pont de Rialto, bien entendu. Alors là, il y a des exploits techniques. Mais les Vénitiens, très tôt, ont eu le souci de ce qu'il faut appeler l'urbanisme. Et ils ont insisté pour qu'il y ait des démarches en direction de la beauté. Il y a de très très nombreuses lois. Et il y a un livre de Sergio Bettini, si ça peut intéresser les auditeurs, qui décrit l'intervention de l'État, on va le dire ainsi, pour augmenter la beauté de la ville.
La beauté, c'est-à-dire, dans quel sens?
Alors,
selon quels critères?
Alors, bon, ça c'est un peu délicat, mais déjà, les Vénitiens ont inventé un style qu'on appelle le gothique vénitien. Si vous pensez au palais de la Cadoro, une architecture gothique, mais extrêmement fine, extrêmement travaillée, un genre gothique flamboyant. Nous sommes au XIVe et au début du XVe siècle. Et puis après, des styles architecturaux partout dans la ville, puisqu'il n'y avait pas de quartier riche et de quartier pauvre à Venise. Ce serait une erreur de penser que les palais du Grand Canal sont tous regroupés. Il y a de magnifiques palais partout, justement à cause des origines familiales de ces îlots. Alors les architectes s'en sont donnés à cœur joie. Le gouvernement établissait des concours. Les architectes arrivaient avec des maquettes, présentaient des projets au comité d'urbanisme, pour l'appeler ainsi, et puis, selon le budget attribué, selon la technicité et selon la beauté, j'insiste beaucoup là-dessus, le parement, par exemple, en marbre ou en pierre, les décorations intérieures, le budget était voté et on pouvait construire. Et les édifices publics ont été soumis à cette règle du concours d'architecture.
Il y a l'architecture, mais ce qui est quand même étonnant, c'est de voir aussi la concentration et l'attrait que cette ville produit sur des artistes dans toutes les disciplines.
Oui.
La peinture, la musique, la sculpture, le cinéma beaucoup plus récemment.
Oui, oui. Et là, on entre dans cette tradition, effectivement, de la liberté d'esprit. Les créateurs ont toujours été très bien accueillis à Venise, protégés. Le mécénat a existé très tôt. Et là aussi, les nobles qui avaient trouvé des moyens d'accroître leur fortune ont fait confiance aux artistes. Ils ont financé des écrivains, ils ont financé des auteurs de théâtre. C'est à Venise sans doute que les premiers théâtres publics, avec l'achat d'un billet pour assister à un spectacle, ça s'est produit à Venise. C'est à Venise que, évidemment, les musiciens et les compositeurs s'en sont donnés à cœur joie, parce qu'on imprimait les partitions, peut-être pour la première fois. En Europe occidentale, il y a eu une industrie de l'imprimerie liée à l'industrie musicale. Et on gagnait beaucoup d'argent. Idem pour les jeux. Les imprimeurs se sont lassés dans la production massive de cartes à jouer.
Pas de censure à Venise.
Non, très peu.
L'administration ne s'est jamais sentie menacée par quelque forme d'art que ce soit,
non.
Quelque forme d'expression que ce soit.
Non, non. Il y a eu de temps en temps, bien entendu, des remarques parce que les limites étaient dépassées, mais il n'y a pas eu vraiment de censure comme nous le comprenons. Faut-il citer une très belle anecdote qui concerne Galilée, Galilée ayant été chassé par la papauté, etc., etc., à cause de ses inventions extraordinaires. Se présente au Grand Conseil de Venise et puis dit « Voilà, j'aimerais bien être accueilli parmi vous et je voudrais être professeur. » Et bon, il y a une petite commission d'enquête, tout ça, et puis on lui dit, oui, d'accord, mais professeur, à Padoue, bien entendu, puisque nous, on n'a pas d'université. D'accord, à Padoue. Et combien vous allez me payer ? Et puis le représentant du gouvernement lui dit, mais enfin, la liberté n'a pas de prix. Vous aurez la liberté, mais vous n'aurez pas de salaire. Et on dit, pour s'amuser, que Galilée a été peut-être le premier à inventer les polycopiés payants qu'il vendait aux étudiants pour survivre.
N'empêche voilà. Qu'il a été accueilli.
Il a été accueilli. La même chose pour Erasme, plus tard, au début du XVIe siècle, qui s'est installé, qui a pu écrire librement, qui a pu imprimer. Il ne faut pas oublier l'imprimerie vénitienne, n'est-ce pas ? Qui a joué le rôle de porte-parole de tous les intellectuels juifs qui étaient chassés partout par la papauté, ont imprimé leurs livres à Venise. Ils ont imprimé des Talmuds en langue hébraïque, etc., etc., etc. Et à Venise, on a inventé les brevets de fabrication, le droit d'auteur, technique et littéraire.
Les Juifs sont accueillis, les protestants aussi plus tard, oui. Lorsqu'ils sont chassés notamment de France et puis de tous les pays qui luttent contre cette nouvelle
tendance. Et je crois qu'il y a une... Alors je vais déformer les propos, mais Candide, Voltaire fait dire à Candide, je vais aller à Venise, là où on ne craint ni les Arabes, ni les Juifs, ni les esprits contrariés. Bon, et puis après, évidemment, tout le monde pensera à Casanova. Hein, qui montre une très grande liberté d'esprit, c'est parce qu'il a mal agi qu'il a été condamné. Oui, voilà, il a été condamné parce qu'il a mal agi, pas parce qu'il a mal pensé. Hein, il faut remettre bien les choses à leur place.
Alors cette liberté, manifestement, elle est un excellent terreau pour l'art et pour le talent.
Voilà, parce que les moyens financiers étaient là. J'ai évoqué certains mécènes, j'ai évoqué le marché de l'art. Il y a de très nombreux tableaux qui eux-mêmes représentent les marchands de tableaux à Venise. Hein, sur la placette de San Giacomo, toutes les semaines, il y avait les grands peintres, on pense à Canaletto, on pense à tout ça, exposaient les œuvres et les voyageurs venaient acheter des tableaux. Qui était ensuite diffusé dans toute l'Europe. C'était la même chose pour les librettistes d'opéra, pour les auteurs littéraires, et puis pour les musiciens, donc, qui composaient de la musique.
Vivaldi, Monteverdi, on ne peut pas ne pas le citer leur nom.
On ne peut pas, et puis alors il faudrait-il penser à toute la chapelle palatine, justement, les frères Gabrielli, etc., hein, l'Ars Nova et l'Ars Moderna. Oui, bien sûr, bien sûr.
On parle souvent des risques encourus par Venise à cause de la montée des eaux, bien sûr. L'acqua alta, ça se produit chaque année. Les Vénitiens ont les pieds dans l'eau et même plus que les pieds. On voit installer sur la place Saint-Marc ces espèces de tréteaux qui leur permettent de passer à pied sec. Venise est menacée.
Venise est menacée plus que jamais. Les phénomènes répétitifs de l'acqua alta sont multipliés par 10. Chaque année, quand j'étais étudiant, j'allais là-bas dans les années 70, à la fin des années 70, il y avait 10 épisodes par an, et maintenant il y en a 50, quand tout va bien, et puis avec une ampleur tout à fait extraordinaire. Et c'est évidemment très nuisible à la bonne santé de la ville de Venise, et c'est pour cela qu'on a entrepris ce fameux travail de la digue Moïse, qui est presque opérationnel, ça y est, tout le monde met beaucoup d'espoir dans cet appareil pour endiguer la marée venant de l'Adriatique. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, nous verrons bien à l'usage, mais je suis sceptique.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette ville est sacrément costaud.
Oui, puisqu'elle a résisté à tout cela pendant 1000 ans. Alors je me plais à dire que Venise, c'est une spirale de sens. Le visiteur qui franchit est souvent surpris, parce qu'il sait que c'est beau, mais beau, ça veut rien dire beau. C'est tellement complexe. C'est une ville qui est transhistorique, parce qu'il y a toutes les périodes de l'histoire, en réalité. On la croit uniforme, mais ce n'est pas vrai. Et elle est multiforme, autant dans l'architecture que dans tout le reste. Et puis elle dure. Elle dure, je voudrais croire qu'elle est immortelle.
Un très grand merci, Bernard Doumerc, de nous avoir accompagnés dans ce voyage à Venise. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Jaurès à Toulouse et que vous-même, vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à Venise. Je cite le dernier, paru chez Ellipse, ça s'appelle « Venise et son empire en Méditerranée ». Encore un grand merci.
Merci à vous.
Et puis je voudrais remercier Dominique Chenet et Pascal Jiménez qui ont assuré les lectures des textes que vous avez pu entendre dans cette série. Merci également à Elisabeth de Monclos pour son aide précieuse dans la préparation de ces entretiens.